Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. De retour de Paris alors?
De retour de Paris, absolument. Toi, tu vas partir bientôt.
Enfin, un peu pour la même raison que tu en reviens.
Voilà, on se
relais.
Relais, voilà, c'est le mot. Donc, alors, pourquoi suis-je allée à Paris? Pour voir l'exposition sur le D-Book qui a lieu au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 26 janvier. Je recommande vraiment très, très fortement cette exposition. Donc, le Musée d'art juif est ouvert tous les jours, sauf lundi, de 11h à 18h. Voilà, ça, c'est les renseignements pratiques. Il est rue du Temple... en plein centre de Paris, tout près de l'arrêt Rambuteau, en métro. Voilà, donc, une exposition sur ce D-Book. Alors, qu'est-ce qu'un D-Book? Un D-Book c'est un phénomène de possession, en fait. Alors, chez les chrétiens, il me semble que c'est plutôt le diable qui prend possession de quelqu'un. Dans le folklore, on peut dire juif, ou la superstition juive, ou évidemment, ce n'est absolument pas dans la Bible, ni dans le Tanakh, ce sont des choses qui sont apparues bien, bien plus tard. C'est donc l'âme d'une personne décédée. Donc, d'une personne décédée dans des conditions pas normales, on peut dire, qui va chercher son tikkun, sa réparation, en venant dans une autre personne. Donc, ce thème a été pas extrêmement important. Dans l'exposition, il y a surtout pour parler vraiment du D-Book en soi, il y a des amulettes, des textes pour se préserver de manière tout à fait générale, du mauvais œil, de Lilith aussi. Donc, Lilith, c'est une figure... de la première femme d'Adam qui a été rejetée et qui maintenant s'attaque aux femmes enceintes et surtout aux jeunes accouchées où elle essaye de leur voler leur bébé. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que le D-Book, mais c'est contre elle qu'on se protège par des amulettes, par des textes qui sont affichés dans les chambres des accouchées. Le D-Book est devenu en fait célèbre, si on peut dire, à la suite d'une expédition ethnologique qu'on fait donc à un certain nombre de personnes, donc le très célèbre Hans Kies, c'est lui qui a donné vraiment, on peut dire, ses lettres de noblesse et son entrée littéraire au D-Book. On peut dire que c'est un petit peu comme Camisso qui a donné son aspect littéraire au Schlemihl. Et donc Hans Kies, c'est lui qui a donné vraiment sa notoriété au D-Book. Alors, Hans Kies est lui-même une personne extrêmement intéressante. Donc là, je cite le livre qui a été édité par la bibliothèque MEDEM, donc de la Maison de la Culture Yiddish, avec une traduction de Batya Baum. Donc, je vous lis comment l'introduction par rapport à la traduction de Batya Baum. Donc, Batya Baum, cette grande traductrice... qui a traduit aussi La nuit sur le vieux marché de Peretz, et qui avait donc traduit le D-Book. C'est une nouvelle traduction, puisque le D-Book avait déjà été traduit il y a quelques années. La traduction de Batya Baum de ce grand classique du théâtre et du cinéma yiddish offre au lecteur une vision renouvelée de l'œuvre. Présentant la version complète du texte, elle se distingue, comme tous les travaux de la traductrice disparue en juin 23, par une exceptionnelle sensibilité à ses nuances et résonances, et redonnent tout leur sens aux mots évoquant de manière voilée des éléments du judaïsme et de la mystique juive. Alliant aux riches ressources du français une souplesse de rythme venue du yiddish, elle atteint une remarquable qualité poétique. Voilà, donc ça c'est ce livre dont je lirai des extraits la prochaine fois. Le D-Book, Entre deux mondes, donc édité par la bibliothèque MEDEM, en bilingue. Hein, donc d'un côté le yiddish, de l'autre côté le français. Voilà, nous revenons donc à Anski. Alors, qui est Anski? De son vrai nom, Shloim Zanvel Rapoport, qui est né en octobre 1863 à Tchachniki, une petite bourgade du gouvernement de Vitebsk, au sein d'une famille modeste qui s'installe à Vitebsk. Alors, il va avoir un parcours assez particulier. Il va en particulier travailler dans des mines de charbon et de sel qui vont complètement lui abîmer les poumons. Et puis, il va s'éloigner du judaïsme et il se rapproche du mouvement des Narodniki qui sont très célèbres en Russie. Ce sont des gens qui pensent qu'il faut se rapprocher du peuple, qu'il faut prendre les forces de la nouvelle Russie qu'on espère un jour dans le peuple. Et donc, il va y avoir aussi une révolution en 1905 qui porte les espoirs démocratiques en Russie, mais qui malheureusement va complètement échouer. Enfin, malheureusement, oui, on peut dire ça, avant la vraie révolution de 17. Lui, il va vivre à Paris, il va vivre à Berlin, il va vraiment être dans différents endroits. Et puis, ensuite, il va se rapprocher du judaïsme et il va en particulier participer à une expédition ethnographique. C'est le moment où on est dans la conscience, la prise de conscience dans toute l'Europe, qu'il y a des traditions, des chansons, des superstitions, tout un folklore populaire qui est dans les campagnes ou dans les petites bourgades, qui va disparaître. C'est-à-dire qu'il y a la modernité qui arrive vraiment très, très, de façon très puissante, en particulier avec le train, avec aussi le fait que les jeunes quittent, quittent la campagne pour aller à la ville. Tout ça va moderniser énormément la société, toutes les sociétés européennes. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont s'intéresser justement à rechercher les traces encore très vivantes à l'époque, de cette culture qui est en train de disparaître. Et un des aspects, c'est justement les superstitions, les croyances, la sorcellerie même, qui est un peu partout. Et donc là, c'est une expédition qui se fait avec l'appui de la Société juive pour l'histoire et l'ethnographie, donc qui a été fondée en 1908 et qui est financée par le baron Horace de Günzburg et sa famille. Anski réussit à former une petite équipe munie d'un phonographe, d'un appareil photo avec des musicologues, des photographes. Et à partir de juillet 12, pendant 2 ans et demi, il sillonne l'Ukraine avec son équipe dans les bourgades les plus reculées, en prenant 2000 photographies et en collectant par milliers des contes, légendes, chansons et pièces de théâtre populaires, ainsi que des mélodies traditionnelles. Il va y avoir aussi une récolte de dictons, croyances, documents, manuscrits et aussi des relevés de tombes, des relevés de vieilles synagogues. Et ça se termine avec la guerre. En fait, c'est la guerre de 14-18, évidemment. Et ensuite, il va aider les comités juifs de secours aux victimes de la guerre. Il s'occupe de distribuer de l'aide à des communautés dévastées par le conflit, puis par des pogroms, Pologne, Galicie, Bukovine. Il va d'ailleurs écrire un livre qui s'appelle « Churban Galicie », c'est-à-dire les malheurs, on peut dire, ou la catastrophe en Galicie, hein, puisque les populations juives ont déjà beaucoup, beaucoup souffert de la guerre de 14. Et ensuite, donc, ce D-book, ça vient en fait d'histoire qu'il a entendue, mais il va en faire une pièce de théâtre où il met aussi des éléments personnels. Donc, je vais vous dire de quoi il s'agit dans la pièce, peut-être après avoir écouté une chanson qui est en fait aussi une œuvre d'Anski, mais qui n'a évidemment rien à voir avec le D-book.
Non, alors parce que, comme tu disais, Narodnik, il faut se rapprocher du peuple, donc c'est une version du Bund. Quand tu dis le peuple, c'est le peuple juif
c'est
seulement
C'est le peuple russe. Non, Narodnik, ce sont des gens qui sont des Russes, qui se rapprochent du peuple russe. Alors, les Juifs avaient participé à ce mouvement jusqu'à ce qu'il y a eu des pogroms et où ils se sont rendus compte qu'en fait, leur espoir de se fonder dans, dans le peuple russe, de participer à tous les mouvements russes, était finalement un peu une illusion. Et c'est là que beaucoup de gens sont retournés vers un côté plus juif, même si les idées socialistes et d'amélioration restaient, hein, mais alors plus centrées sur les juifs, on peut dire ça.
Oui, peut-être alors en rapport avec le Bund.
Voilà,
dans ce
tout
cas-là,
à fait. Tout
parce
à fait.
Que justement, Anski a écrit ce qui est devenu un petit peu un des hymnes, parce qu'on dit l'hymne là dans le livret de CD que j'ai, ils disent l'hymne, je crois qu'il y en a quand même plusieurs, des hymnes du Bund. Un manifeste en demandant qu'on s'allie et tous ensemble, hommes et femmes, et puis avec une espérance que les lendemains seront meilleurs. Alors voilà, Dichou, j'ai trouvé donc l'enregistrement par les Américains, Adrienne Cooper avec Zalman Mlotek, où chante en chorale, c'est la chorale du Workman's Circle, c'est un petit peu américain, hérité du Bund. Voici Dichfou. Nous jurons.
Voilà le serment, hein, Dichfou, c'est le serment, donc un serment de vie et de mort. Hein,
oui, à la vie et à la mort.
À la vie et à la mort, voilà. Donc, alors, le Dibouk, de quoi s'agit-il ? Donc, c'est une histoire qui est inspirée par ces légendes, mais qui est vraiment écrite tout à fait par Anski. Alors, c'est deux personnes, deux hommes, sont en grand danger et ils ont laissé à la maison leurs femmes qui sont enceintes et ils se disent si on s'en sort, si nous, un de nous a un garçon et l'autre une fille, on va les marier ensemble, bien sûr. Donc c'est l'époque aussi où les mariages étaient arrangés par les parents. Donc ils s'en sortent tous les deux, mais le père du garçon meurt assez vite tandis que le père de la fille s'enrichit. Et un jour, arrive dans la ville où vit donc ce père et sa fille, qui entre-temps a 16, 17, 18 ans, arrive un jeune étudiant de Yeshiva, qui est en fait le fils de l'autre. On ne le sait pas ou on le sait, ce n'est pas très clair. En tout cas, les deux jeunes gens tombent amoureux, mais le père de la jeune fille ne veut pas que sa fille épouse un pauvre étudiant qui n'a plus un sou, qui est orphelin. Et donc, il refuse ce mariage. Le jeune garçon désespéré essaye par tous les moyens, donc il essaye des moyens magiques, des moyens de sorcellerie pour s'attirer la jeune fille. Ça ne marche pas, mais ce qui se passe, c'est que c'est lui qui meurt. Quelques temps après, le père organise un mariage pour sa fille avec évidemment quelqu'un de beaucoup plus riche. Et c'est à ce moment-là que l'âme du jeune homme vient posséder la jeune fille. Donc, c'est un dibouk. Et la jeune fille parle par sa voix et elle refuse absolument le mariage. Elle fait même une espèce de crise d'hystérie, d'épilepsie. Et donc, on convoque un rabbin pour faire un exorcisme. Le jeune homme ne veut pas quitter la jeune fille, qui ne veut pas non plus qu'ils partent, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent être ensemble, en fait. Et donc, il meurt, elle meurt, puisque lui est déjà mort, elle meurt. Et c'est ainsi que se termine cette tragique histoire. Alors, c'est quelque chose qui a été donc écrit. Alors, c'est intéressant parce que ça s'appelle « Entre deux mondes », mais on peut dire aussi que c'est « Entre deux ou même trois langues », parce que ça a été écrit en russe par Hansky. Et puis ensuite, il a fait une version yiddish. Et puis cette version yiddish a été traduite par Bialik. Et puis, à partir de la version de Bialik, on a retraduit en yiddish. Enfin, c'est quelque chose qui a fait des allers-retours. Et finalement, cette pièce a été créée en 1920 à Varsovie avec des grands acteurs de la Wilner Troupe. Alors, c'est intéressant parce que ce sont en fait des acteurs de Vilna, mais qui ont joué à Varsovie, dont un très célèbre acteur qui s'appelle Morewski. Et donc, il y a dans l'exposition des photos de cette troupe. Et parallèlement, quasiment en 22, est créé au théâtre Abima d'Israël la même pièce, mais en hébreu, avec aussi tous les grands acteurs de l'époque en hébreu. Et ces deux troupes vont faire toutes les deux des tournées mondiales. Donc là, on est dans les années 20. C'est vraiment l'essor de la culture yiddish et de la culture hébraïque aussi. Donc, ils vont jouer, les deux troupes vont jouer dans toute l'Europe et même en Amérique. Et ensuite, il y aura donc ce qui est devenu très, très célèbre, un film. Donc, un film tourné en 1937 par Varginsky. Magnifique film. Là, il y a déjà quand même l'approche de la guerre et surtout, Hitler a déjà pris le pouvoir. Il y a des menaces sur les Juifs, évidemment, d'Allemagne, mais aussi la Pologne sent que les choses ne vont pas bien du tout. Et dans ce film, il y a en particulier une danse de la mort, c'est-à-dire que la jeune fille, au moment de son mariage, danse avec un certain nombre de personnes et tout d'un coup c'est la mort qui s'approche. C'est vraiment une scène extraordinaire qui fait extrêmement
expressionniste, quoi. On est dans la période
expressionniste. D'ailleurs, on voit les maquillages, il y a des photos des maquillages des acteurs qui sont maquillés vraiment, c'est presque des masques, effectivement, ce sont presque des masques. On est aussi un peu dans la commedia dell'arte. Enfin, c'est vrai qu'il y a certains personnages, ils sont maquillés de façon qu'on croit qu'ils portent des masques. Hein. Donc ça, c'est surtout la troupe Abima qui est maquillée ainsi de manière vraiment très, très, comme tu dis, expressionniste. Et dans le film aussi, bon, le film, ils sont moins maquillés, bien sûr, parce que c'est un film. Mais la mort, alors la mort a aussi le visage du jeune homme. Bon, c'est un film qui a eu énormément de succès. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette pièce a continué à vivre après la guerre. Elle est toujours montée. Hein. Donc, il y a eu plusieurs pièces en France, plusieurs représentations en France, en français, avec aussi des acteurs connus. Donc, ça, c'est dans les années 50. Il y a eu la représentation que nous avons vue au TNS de Varlikovsky, très, très belle. Très, très belle représentation, ça c'était déjà en 2003, hein, ça fait déjà un moment. Et puis la dernière représentation, donc toutes ces représentations, on a des captations hein, qui sont montrées dans l'exposition, donc c'est extrêmement intéressant, dont la dernière 2015 à Varsovie, où joue l'actrice Golda Tänzer. que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Varsovie, donc qui est très âgé, mais qui joue, parce que dans cette représentation de 2015, il y a cette Léa. Donc la Léa, c'est la jeune fille qui est amoureuse. On la voit jeune, mais on la voit aussi âgée. Ça, c'est la mise en scène qui a fait comme ça. Et donc, on voit cette Golda Tänzer. Voilà, ben, je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois que je vais m'arrêter. Ben, de toute façon, je lirai des extraits la prochaine fois du livre. Et je voulais aussi annoncer donc, que je vais être invitée par Communauté Plurielle pour présenter mon livre « Le pape juif, une légende à travers les siècles » dont nous avons parlé bien sûr à l'émission. Donc ça, ce sera mardi 21 janvier à 18h au café de l'hôtel Annon, qui est un endroit très agréable. Et c'est donc l'hôtel Annon, 15 rue du 22 novembre. Donc mardi 21 janvier à 18h, évidemment, avec vous pourrez aussi vous procurer le livre, puisqu'il n'est pas très, très diffusé dans les librairies. Voilà, je ne sais pas si on a encore le temps d'écouter une musique, peut-être.
Oui, rapidement, parce qu'elle n'est pas très longue. Donc, c'est aussi une musique du Bund, dans le même recueil américain, enfin, le CD, avec un très bon un livret. Jugendhymn, donc l'hymne des jeunes, écrit par Szmerk Kaczerzinski,
ah oui,
qui est très aussi connu, le fameux homme qui est connu pour le fait qu'il a eu une mort vraiment étonnante, ayant survécu à la guerre, et il meurt dans un accident d'avion en 1954. Enfin, il n'y a pas que ça dans sa biographie, c'est un grand poète, écrivain. Et donc, il a écrit le texte, ce Jugendhymn, qui est aussi une chanson qui est reprise par le Bund.
Voilà, on vous dit Shalom Aleichem et à la semaine prochaine.
Merci
pour la
Thomas.
Suite du book.
Jugendgate.